RCF. La lumière de la connaissance n'éteint pas la lumière de l'amour. C'est peut-être cette phrase du grand mystique persan Ghazali qui caractérise, je trouve, le mieux votre démarche, Jacqueline Kellen. Votre vie est rythmée par l'étude et par l'écriture. Vous avez publié près d'une trentaine d'ouvrages consacrés à l'exploration des mythes de la tradition occidentale et à l'approche de la vie intérieure, de la vie mystique. D'Ulysse au pro-chevalier de la Table Ronde, de Marie-Madeleine à la béguine Edwige d'Anvers, vous nous introduisez dans une vraie quête qui a pour finalité la transformation intérieure du lecteur. Alors comment, Jacqueline Kellen, d'abord avez-vous été conduite à vous intéresser aux mythes, non pas comme un simple sujet d'étude, mais pour y consacrer une grande partie de votre vie?
Tout simplement, j'ai suivi des études supérieures de lettres classiques. Ce n'est plus guère courant de nos jours. Enfin, j'espère qu'il y a encore des jeunes qui étudient le grec, le latin, l'ancien français. Donc, les humanités, comme on disait aussi. Et lorsqu'on étudie le latin ou le grec, et aussi l'ancien français, eh bien, on rencontre non seulement la philosophie antique. Donc, on rencontre Socrate, Platon, mais aussi Empédocle, et beaucoup d'autres, Épictète.
Et donc Ulysse aussi, également, j'imagine.
Bien sûr, et on rencontre aussi les grands mythes fondateurs qui ne sont pas du passé, qui sont des récits intemporels. Et donc très tôt, enfin, j'étais encore bien jeune à la Sorbonne, et même avant, enfant, je lisais bien sûr l'Odyssée à la portée des enfants, des morceaux choisis, mais très tôt, eh bien, j'ai rencontré des personnages qui me paraissent et qui me paraissent toujours extrêmement vivants. L'histoire, c'est la jeune Antigone, par exemple, bon, l'héroïne de Sophocle, qui est aux prises avec la justice des hommes. Et elle veut témoigner d'une autre justice qui est une justice aimante, ou une justice, elle parle des lois divines. Et moi, je me souviens cette fameuse phrase de Sophocle, j'en faisais ma devise à l'époque, lorsqu'Antigone dit « Je ne suis pas née pour partager la haine, mais pour partager l'amour. » C'est magnifique. Bon, c'est il y a 25 siècles.
Hein. Oui, mais justement, Jacqueline Kellen, ces textes datent d'il y a 25 siècles. En quoi sont-ils encore parlants pour l'homme, la femme du 21e siècle?
Eh bien, justement, pour moi, le mythe n'est pas du tout, donc ces grands récits qu'on trouve à l'origine de toutes les civilisations, ce ne sont pas des textes sur lesquels on va se pencher comme universitaire ou érudit. Le héros du mythe, homme ou femme, le héros du mythe, c'est moi. C'est moi, c'est-à-dire chacun de nous, chaque être humain, en partance, en allant, en effet dans sa condition mortelle, mais tentant de trouver quelque chose qui ne périt pas. Alors, il n'y a pas de religion. À ce moment-là, il n'y a pas, par exemple, la religion chrétienne, bien sûr, du temps de Sophocle, ou pour Homère, encore moins. Mais il y a chez tous les héros du mythe, dans ces mythes de la quête, ce goût du dépassement, et puis c'est notre existence. Tous ces héros du mythe ne sont pas du tout immortels, mais ils rencontrent l'amitié, l'épreuve, l'injustice, la trahison, ils seront malades, ils vont vieillir, ils vont mourir.
Donc vous dites c'est nous, c'est-à-dire que nous sommes invités à une introspection à travers ces mythes et à une transformation à travers ces mythes.
Tout à fait. Le mythe est c'est vraiment un récit initiatique au sens initié, c'est se mettre en route, partir et quêter quelque chose qui nous dépasse, qui est plus haut que nous. Donc, on peut les prendre, on peut les interpréter de diverses façons, mais pour la plupart et pour moi, ces mythes sont vraiment des, non pas des textes même, mais ce sont des êtres extrêmement vivants. Et peut-être il nous est demandé de les incarner à nouveau. Ce sont des thèmes extrêmement humains et encore une fois intemporels.
Alors Jacqueline Kellen, est-ce que ce sont les mythes qui vous ont conduit à une quête spirituelle? Parce que dans la trentaine d'ouvrages que vous avez écrits, on voit bien que la dimension spirituelle est très très importante. Vous n'avez pas été simplement une universitaire spécialiste des mythes, vous vous êtes laissé transformer par ces mythes.
Oui, les mythes ne m'ont pas incité ou invité à la quête spirituelle, mais ils ont donné corps, certainement, donné corps, réalité, ils ont donné les moyens d'action, de mettre en action par les vertus, par la confrontation à la réalité, ils ont donné corps, en effet, à cette quête spirituelle, mais autant que je me souvienne, alors est-ce que c'est une grâce ou un fardeau léger, autant que je me souvienne, je suis née, alors je ne peux pas dire avec la foi, parce que c'est un terme maintenant qui m'est un peu que je ne comprends guère, mais je suis née avec ce, autant que je me souvienne, je suis née avec ce sentiment d'une présence mystérieuse, supérieure et irréfutable, et après qui s'est transformée aussi en expérience, mais ce sentiment d'une transcendance, c'est quelque chose qui était avec moi depuis toujours.
Depuis votre enfance et qui ne vous a jamais quitté.
Oui, et pourtant ce n'est pas, enfin bien sûr j'ai reçu une éducation catholique, donc qui a donné aussi, qui a nourri ce sentiment très fort. Mais donc il n'y a pas eu besoin de chercher au sens de chercher une forme.
Pas de démarche gnostique réservée aux seuls initiés.
Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais moi, ce qui m'a toujours, comme j'ai lu très tôt aussi, à 5 ans, je savais lire, et je dois presque tout au livre. Donc j'ai beaucoup étudié, et en particulier le christianisme, mais aussi toutes les autres mystiques. Et donc les mythes, pour revenir à ça, moi j'y ai vu une sagesse, en effet souvent pré-chrétienne, ou une sagesse qui ne se contredit pas du tout avec une démarche spirituelle liée par exemple au christianisme, parce qu'encore une fois il y a des points communs, non seulement l'exercice des vertus, non seulement le goût du dépassement, du perfectionnement, et puis cette recherche d'être, devenir immortel. Alors bien sûr le Christ n'y est pas, sauf si dans les romans courtois il y a, les chevaliers sont des chevaliers très chrétiens. Donc il y a vraiment, il n'y a pas de concurrence du tout, ni de rivalité, ni d'incompatibilité entre les deux.
Mais alors, quelle différence est-ce que l'on peut faire entre des récits mythiques et des récits plus courants, comme des romans aujourd'hui? Quelle différence faire entre les deux? Mes questions vous semblent très, très oui. Primaires, mais...
Non, mais je crains d'être très, très sévère. Moi, ce qui m'affole, enfin, je ne suis pas une grande lectrice de romans. Enfin, si, Don Quichotte ou des grands romans, mais je ne suis pas du tout tournée vers le passé. Mais qu'est-ce qui me donne envie? Moi, je me dis ça pour chacun de nous. Qu'est-ce qui me donne envie de m'aventurer, d'aimer, de créer, de devenir meilleur, de laisser, après mon passage, un peu plus de beauté, de bonté, de générosité, de justice? Enfin, pour moi, c'est ça, l'acte de création, c'est ça. Et que ce soit en musique, en peinture, un beau film, c'est ça. À la fois qui ne me fait pas rêver au sens me donner des illusions, mais qui me donne envie, en effet, d'être meilleur. Et de nos jours, ce que je peux voir, la littérature et malheureusement même beaucoup de femmes qui écrivent, c'est ce qu'ils appellent la vraie vie, moi ce qui me fait rire, donc c'est aux antipodes de Rimbaud qui parle de la vraie vie qui est ailleurs, et en effet la vraie vie, c'est la vie éternelle, ce n'est pas l'aspect existentiel des jours quotidiens. Et il y a une sorte de platitude, de réalité, et pire, depuis ces dernières années, je trouve qu'il y a une morbidité, une littérature de l'affreux, du souffreteux et du sinistre, dans laquelle on se complaît. Et apparemment, ça marche. Et on sait très bien, pour des raisons commerciales, et là, c'est des raisons pas très nettes non plus, on sait très bien que ce qui marche, parlons en termes de marché, et là, ce qui n'a rien à voir avec la création, la littérature et la spiritualité, ce qui marche, eh bien, c'est l'enfant martyr, c'est les atrocités.
Oui, mais dans les mythes, il y a beaucoup de violence aussi.
Oui, il y a une violence, mais on parle en termes d'épreuves. Ça, c'est une grande distinction. Bien sûr, il y a des combats, un Thésée qui va affronter le Minotaure, et puis avant il a affronté quelques monstres aussi, bien sûr, mais c'est non pas une complaisance dans la violence, c'est pour montrer la fermeté d'âme, la résistance, la vaillance, l'audace du héros. Il n'y a pas du tout un Héraclès ou Hercule qui accomplit ces 12 travaux, c'est vraiment notre image, c'est-à-dire nous avons en effet tout au long de l'existence des épreuves à traverser, mais l'intéressant n'est pas la souffrance, et surtout pas, il ne s'agit pas de stagner ou de se complaire dans la souffrance, ni en se plaignant, ni en faisant l'apologie de la souffrance ou de la violence. La question c'est comment je m'en sors, c'est-à-dire comment je m'en libère aussi, vers quel chemin d'allègement, de beauté ou de joie je vais. Donc, pour faire vraiment très rapide, je trouve que, bien sûr, il y a des exceptions heureuses actuellement, mais la plupart des romans, en effet, actuels, me paraissent dans une horizontalité sinistre, et une complaisance narcissique effarante, et ne donnent pas tellement envie de s'élever ou de devenir quelqu'un de bien.
Visage, RCF.
Jacqueline Kellen, une autre question liée au mythe et au texte spirituel et aux grands textes religieux aujourd'hui. C'est un sujet qui divise hein, des biblistes et des théologiens. Est-ce que par exemple, si on parle de la Genèse, on parle d'un récit mythique ou d'un récit spirituel religieux ? Je vous vois hausser les sourcils, c'est un sujet délicat,
oui,
complexe.
Mais c'est énorme, et puis moi je ne suis pas, moi je suis une grande, grande, grande lectrice et j'étudie énormément les textes, mais je ne suis ni théologienne ni exégète. Mmh. Pour prendre la Genèse, bien sûr, on ne peut pas, de nos jours, on sait bien, enfin à moins d'être comme les créationnistes extrêmement un peu
fondamentalistes.
Hein, voilà, oui. Fondamentalistes, donc là c'est assez naïf de penser, bien sûr, ce n'est pas Dieu le Créateur qui a soufflé dans les bronches d'Adam après l'avoir modelé comme un potier, bien sûr, donc ça ce sont des images. Il n'empêche qu'il y a ce sens plus ou moins caché ou qui se dit à travers des images qui passent. Moi, ce qui m'est très cher aussi dans tout, et c'est pourquoi Jésus aussi a tellement parlé en parabole, et on lui posait la question, l'image s'adresse au cœur. L'image s'adresse au cœur. Ce qui est troublant aussi, ce que je note très souvent dans le langage actuel, et pas simplement chez les politiques, c'est qu'il y a une abstraction insensée. Alors ne serait-ce, je prends un exemple de très très courant, on ne parlera plus des beautés ou des richesses de la nature, parce qu'apparemment c'est trop romantique ou sentimental, mais on ne va parler que de biodiversité. Bon, moi la biodiversité, sur un plan, j'allais dire, pour un être sensible, ça ne dit rien. La beauté de la nature, oui, ça me donne envie de contempler, de veiller sur elle, etc.
Et donc du coup de réfléchir sur la beauté.
Voilà.
Et ça nous renvoie à plus grand.
Voilà, donc l'image, alors que ce soit le modelé d'argile, que ce soit le jardin d'Éden, plus tard les paraboles de Jésus et toutes les belles histoires qui sont contées, ne sont pas contées à des enfants naïfs, mais s'adressent toujours au cœur. Et le cœur à la fois est imaginatif et c'est les cœurs qui reçoivent cette parole-là. Ce n'est pas l'intellect. Ça ne veut pas dire qu'il faut être simple d'esprit. Mais il s'agit en effet d'entendre ces récits dans leur puissance originelle. Donc ça s'adresse vraiment au cœur.
Donc à l'intériorité.
À l'intériorité. Mmh. Oui, le cœur, quand on parle de cœur sur un plan spirituel, alors la plupart du temps, quand on parle de cœur, c'est sur le plan sentimental. Donc la Saint-Valentin, le cœur traversé d'une flèche, les petits cœurs que les enfants peuvent offrir aux parents ou à la maman. Bon, ça c'est le cœur affectif et sentimental qui est charmant, mais qui n'est pas le cœur spirituel. Le cœur spirituel, c'est vraiment, c'est le sanctuaire, c'est le lieu secret et sacré en chaque être, où la présence divine, où la transcendance peut se manifester. Donc c'est vraiment le sanctuaire, la lampe du cœur, la chambre secrète, tout ce qu'on prend aussi comme image.
Jacqueline Kellen, s'il est une femme qui est rentrée dans ce cœur, dans ce sanctuaire, c'est bien Marie-Madeleine. Et j'ai été impressionné en regardant votre travail depuis des années, à quel point cette femme tient une place importante chez vous, Marie-Madeleine.
Oui.
Plus que les autres,
oui,
j'ai l'impression, c'est vrai ou...
Depuis, je ne dis pas depuis que je l'ai rencontrée, je pense qu'elle m'a rencontrée. Maintenant, elle ne me quitte plus. Elle ne me quitte plus et c'est pourquoi je ne pense pas à elle comme à quelqu'un d'extérieur ou à une sainte ou quelqu'un à qui m'adresser. C'est vraiment, alors à la fois, voici un personnage qui, sans nul doute, a existé, puisqu'on a l'air d'être tellement friand de savoir est-ce que Jésus a existé, est-ce que Marie-Madeleine a existé. existé. Donc cette fameuse réalité temporelle.
Et historique.
Historique. Mmh. La question, bien sûr qu'elle a existé, mais surtout ce personnage déborde infiniment, en effet, son passage sur Terre, est devenu une figure, certes, de légende, puisque toute sa légende a été propagée, enfin surtout en Provence, avec les Saintes Marie de la Mer et puis la Sainte Baume, etc. Puis la découverte des reliques ici et là, à la Sainte Baume et à Vézelay au XIe, XIIe siècle.
Donc, avec une redécouverte au Moyen-Âge de Marie-Madeleine, de sa spiritualité. Et, bon,
pour son culte, certes, mais c'est une femme qui ne parle quasiment pas dans les évangiles, mais en revanche, que de manifestations d'amour et d'amour éperdu. Et donc, elle est devenue une figure, la figure même de l'âme amoureuse, de celle qui s'attache à Jésus pour toujours. Et comment l'ai-je rencontrée ou comment m'a-t-elle rencontrée? Ben, très tôt, puisque, donc, ayant été élevée chez les religieuses, donc elle ne me parlait pas de Marie-Madeleine, mais je lisais les textes et puis nécessairement, on parle de Marie-Madeleine à des moments privilégiés de la vie de Jésus, et en particulier, enfin, le summum étant le jour de Pâques, donc la première personne qui voit le Christ ressuscité, c'est elle, donc ce n'est quand même pas rien, c'est sur elle que repose en premier ce témoignage fondamental
dans l'évangile de Saint Jean. Voilà, Jésus se manifeste,
c'est elle,
à elle en premier,
et elle court pour le dire aux disciples, entre parenthèses, qui la plupart soit l'ont trahi, soit ont renoncé à y croire et sont retournés à leurs petites occupations, après avoir dormi sur le mont des Oliviers. Bon, enfin, ça, c'est toutes les horreurs.
Ça veut dire qu'on a du mal à croire les femmes, quelque part.
Oui,
j'entends ça dans
oui,
votre
et donc, Marie-Madeleine court pour dire à Pierre, André, etc., qu'elle a vu Jésus vivant, et il ne la croit pas. Il pense qu'elle déraisonne parce qu'elle a toujours été un peu excessive. Donc ça, c'est violent. Bien sûr, je connaissais ces récits, et en même temps, dans la tradition catholique, il y avait toujours ce qualificatif accolé à Marie-Madeleine, la pécheresse. Alors, petite fille, on ne me disait pas la prostituée, etc. Mais enfin, c'était la pécheresse, la femme de mauvaise vie, etc. Et je trouvais ça étonnant parce que, par ailleurs, lisant beaucoup de poésie et puis aimant aussi beaucoup la peinture, je voyais chez les poètes ou dans les tableaux qui la représentaient, même si elle était au pied du Christ, je voyais une femme splendide. Et je me disais, là, il y a quand même une incompatibilité, il y a quelque chose qui est contradictoire.
Autre image de cette femme qui déverse un parfum de très grand prix, voilà, sur les pieds de Jésus,
voilà.
Donc une femme riche.
Mais une femme riche, une femme belle, et il faut dire le terme, une femme libre. Une femme libre, c'est ça, je pense, qui... elle demeure, je pense, la grande, alors sans du tout entrer dans les fantasmes et délires de ces dernières années, surtout tous les récits autour de Marie-Madeleine. C'est la liberté d'allure de cette femme, cette liberté qui l'a fait tout quitter pour suivre Jésus jusqu'au bout, et jusqu'à la crucifixion au Golgotha, et jusqu'à la résurrection, puisqu'apparemment elle est la seule à le prendre au sérieux, à croire en ses propos, puisque le troisième jour, elle est seule à y aller, bon, à sa rencontre. Donc, cette femme est vraiment cette figure. Alors, pour moi, c'est la première mystique. C'est la première mystique, si on entend par mystique, un être qui désire de tout son être, de tout son cœur, de toute son âme, s'unir à la divinité, s'approcher de la divinité. Donc c'est vraiment la première mystique, avant d'être, si on suit la légende provençale où elle s'est retirée, pour vivre en pénitence ou en solitude dans le massif ou la grotte de la Sainte-Baume, c'est aussi la première ermite, la première ascète. Donc c'est vraiment une femme totale.
Mais tout ce qui l'a guidée, c'est cet amour infini
total,
pour le Christ.
Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'il y a un élan irréversible, et il me semble que chaque femme, au moins, ressent en elle cet amour qui vous fait tout quitter. Qui vous fait tout quitter et tout traverser aussi. Et c'est un amour qui procure la liberté.
Alors qu'est-ce qui contient cet amour? Parce que l'amour, c'est un mot aujourd'hui galvaudé. Vous, oui. On voit que ce que vous appelez la voie amoureuse, la voie VOIE, c'est vraiment une constante aussi dans toute votre œuvre.
J'espère bien.
Vous avez déclaré un jour, pour ma part, je vais au combat sans relâche pour sauver la beauté et le mystère de l'amour. C'est ma tâche de guerrière spirituelle qui consiste à répandre de l'amour en un monde qui le profane et le crucifie. Vous avez déclaré ça un jour dans une interview.
Bon, eh bien je... Oui,
vous re-signez, là, vous redites
tout à fait, tout à fait, je reconnais mes propos, je ne me souvenais pas de ça, mais bien sûr, je signe. Oui, oui, reconnaître l'amour en toute chose, mais c'est une qualité d'amour qui n'est pas mièvre ni sentimentale. C'est un amour d'ordre à la fois du désir, du haut désir, et ce terme qui est tellement mal compris ou galvaudé. Le désir n'est pas la convoitise, le désir est une force essentielle, une énergie vitale. C'est ce qui me fait sortir de moi, ce qui me fait m'aventurer, risquer, conquérir, mais conquérir pas au sens de posséder. Et le désir de ciel, le désir céleste est essentiel dans une quête spirituelle.
Alors pour revenir à cette question sur l'amour,
le désir, voie amoureuse. Il y a le désir, et puis dans cette voie amoureuse, il y a le désir, une ardeur, et il y a une passion. C'est unique, c'est une passion exclusive. La voie amoureuse, qui me paraît le propre de la voie féminine, ce n'est pas de la dévotion, ce n'est pas simplement révérer, alors disons le Christ, pour ne pas dire Dieu le Père, c'est, en général c'est le Christ, puisqu'il y a une relation à égalité, si je puis dire, c'est révérer le Christ comme le bien-aimé. Donc ce n'est pas religieux au sens, il n'y a pas de distance, je peux le dire autrement.
Et ce n'est pas réservé aux femmes. Ce n'est pas réservé qu'aux femmes, parce qu'il y a, il y a cette voie amoureuse chez des hommes, chez Jean de la Croix, par exemple.
Oui, mais ce qui fait problème, c'est que, ce qui est merveilleux dans le christianisme, c'est qu'une femme, en effet, peut parler du Christ comme de son bien-aimé. La question, est-ce qu'un homme peut parler du Christ comme son bien-aimé? Moi, je pense que c'est délicat. C'est pourquoi, en effet, Jean de la Croix parle de lui au féminin en parlant de son âme qui s'unit au bien-aimé, mais c'est ça la vraie question. Et ça nous est dit déjà aussi dans l'Évangile, à vrai dire, aux femmes, les femmes peuvent vivre, les femmes mystiques peuvent vivre cette relation avec le bien-aimé Christ en tant que bien-aimé, donc c'est une relation nuptiale, d'égalité, sur un plan d'égalité. Ça ne veut pas dire que la femme amoureuse est identique au Christ, on a bien compris, mais sur un plan d'égalité amoureuse, tandis que à l'homme, et ce n'est pas moindre, mais c'est différent, tandis qu'à l'homme est réservée l'amitié mystique. C'est Jean, le fameux disciple préféré, dit préféré, mais c'est Jean qui dit « je ne suis pas... » Bon, il est l'ami de l'époux et de l'épouse. Voilà. Donc, c'est pourquoi je crois que la voie mystique est vraiment celle des femmes. Mais j'ai l'impression que cette voie est peu encouragée dans la religion. Ce que l'on propose la plupart du temps, il y a trois figures dans la religion de la divinité, de Dieu. Il y a la figure, alors un peu maintenant moins pratiquée, si je puis dire. Il y a la figure du Dieu maître tout-puissant, donc devant qui on est des esclaves peureux, tremblants, craintifs. Donc une sorte de relation de pouvoir, de puissance, et il n'y a guère
de
liberté pour les enfants de Dieu et de crainte. Et puis il y a l'image, pour moi, qui me paraît très privilégiée, voire uniquement proposé par le christianisme, qui est la figure du Dieu Père, du Dieu paternel, donc miséricordieux, qui protège, qui pardonne, etc. Mais c'est une figure de Père. Donc, face à un Père, nous sommes des enfants. Donc, certes, belle relation, mais c'est une relation filiale, et l'enfant est nécessairement dépendant du Père ou de la Mère. Alors,
jusqu'à ce qu'il s'affranchisse de cette dépendance.
Oui. Et alors, comment s'affranchir de cette dépendance? Eh bien, c'est justement peut-être par la troisième voie ou la troisième figure, la voie mystique, où la divinité est, sous la forme du Christ, la manifestation du Christ, c'est le bien-aimé. Et là, une femme, une mystique, est dans une relation d'égalité. C'est le bien-aimé. Donc là, il n'y a plus ni dépendance ni peur.
Thank you.
Jacqueline Kellen, j'aimerais que nous revenions avec vous sur la dimension du désir. Vous venez de l'évoquer, mais j'aimerais qu'on approfondisse un peu cette question, parce qu'on est mal à l'aise le plus souvent face au désir. Soit on est avec une culture judéo-chrétienne et il y a une dimension charnelle, sexuelle liée au désir, soit on a une culture bouddhiste ou pseudo-bouddhiste aujourd'hui, le désir égale attachement, donc égale souffrance, et il faut se couper du désir, se séparer du désir. Vous, comment abordez-vous cette dimension du désir ?
J'espère bien être un être de désir. L'Apocalypse se termine d'ailleurs par, autant je me souvienne, c'est que l'homme de désir reçoive l'eau de vie, gratuitement. Avoir soif, bien sûr pas au sens physique, avoir soif, chercher, avoir désir de. Encore une fois, c'est la façon de sortir de ma petite citadelle et de mes préoccupations. Alors ce terme de désir, bien sûr, il y a cette vogue, je dirais, du bouddhisme plus ou moins bien assimilé par les contemporains d'Occident, donc qui on entend parler, mais c'est des formules toutes faites. Moi, ce qui m'effare, c'est toutes ces formules plate, donc le non-désir, la non-souffrance, qu'est-ce qu'on entend, l'impermanence, enfin comme si le bouddhisme tenait en trois formules, alors que c'est aussi une métaphysique, c'est un corpus de textes, enfin et c'est une dévotion.
Et de l'autre côté, il y a le désir notre société de consommation, oui, qui est désirer, acheter, consommer, voilà. Et c'est ce qui va vous rendre,
oui,
heureux.
Oui, et en même temps, je ne suis pas sûre que ce soit le désir. Alors bien sûr, c'est un désir convoitise qui a été, bien sûr, que tous les théologiens et auteurs spirituels ont dénoncé comme très mauvais, tout ce qui est de l'ordre « je prends pour moi, j'acquiers, je possède, je garde », ça c'est en effet à l'inverse d'une démarche de libération et de spiritualité.
Alors y a-t-il un vrai désir ?
Mais, oui, parce que, mais je ne pense pas que notre société, justement, avec cette incitation à absorber, acheter, consommer, et y compris consommer du bruit, des images, etc. à longueur de journée, pour moi ce n'est pas une société du désir, parce que c'est une société qui incite, enjoint presque, de répondre aussitôt au désir. C'est-à-dire, la question, ce n'est pas d'avoir envie de telle nourriture ou de telle voiture ou de tel parfum, c'est il faut que vous le possédiez ou que vous le dévoriez ou que vous l'acquériez. Donc, pour moi, notre société n'est pas sous le registre du désir, mais sous le registre de la satisfaction et de la réplétion. C'est pour ça que les citoyens ne savent plus, ils sont repus. Pour moi, on est dans une société de la réplétion.
Et de la convoitise.
Et de la convoitise, toujours plus, en effet. Donc, ce n'est pas du désir.
Alors, le vrai désir,
moi, j'aime bien revenir à, et sans faire du tout l'érudite, mais à l'étymologie et à son sens moyenâgeux. L'étymologie, c'est ce qui arrache aux étoiles, non pas aux étoiles au sens le ciel qui peut évoquer l'immortalité ou l'infini.
Excusez-moi, répétez.
C'est desiderare, donc siderare, on le retrouve dans sidéral. Donc c'est ce qui arrache à l'influence des astres, au sens d'un déterminisme astral. C'est ce qui arrache à l'influence. Et au Moyen-Âge, le désir est équivalent à libre arbitre. La fameuse dame à la licorne, les fameuses tapisseries de la dame à la licorne, le sixième tapisserie, où la dame va entrer sous la tente et au fronton est écrit en lettres d'or sa devise qui est « à mon seul désir ». Et le seul sujet du grand désir, c'est en effet celui qu'on ne peut pas nommer, c'est l'ineffable. Le désir, c'est ce qui est, c'est à la fois le feu de la quête. Et c'est la vie du cœur, c'est la vie profonde de l'intériorité. Sinon, tout est plat et tout est morne. Alors, c'est typiquement occidental, on est aux antipodes, enfin, pas vraiment aux antipodes du bouddhisme, parce que lorsque le bouddhisme parle de non-désir, il parle de non-convoitise. Et bien sûr, nos chers contemporains qui ne rêvent que de confort et de tranquillité et de recettes pour aller bien ou aller mieux, et qui considèrent les religions la plupart du temps comme une thérapie supplémentaires, eh bien, ils ont trouvé ce truc ou cette recette pour moins souffrir, aller bien, être heureux, etc. Mais le désir est justement la seule façon de sortir des problèmes de l'existence et d'aller plus haut et plus loin.
C'est une forme d'intranquillité, le désir.
Mais bien sûr, c'est le terme magnifique. Mais
RCF. RCF.
La lumière de la connaissance n'éteint pas la lumière de l'amour. C'est peut-être cette phrase du grand mystique persan Ghazali qui caractérise, je trouve, le mieux votre démarche, Jacques Nkelen. Votre vie est rythmée par l'étude et par l'écriture. Vous avez publié près d'une trentaine d'ouvrages consacrés à l'exploration des mythes de la tradition occidentale et à l'approche de la vie intérieure, de la vie mystique. D'Ulysse au preux chevalier de la Table Ronde, de Marie-Madeleine à la béguine Edwige d'Anvers, vous nous introduisez dans une vraie quête qui a pour finalité la transformation intérieure du lecteur. Alors comment, Jacqueline Kellen, d'abord avez-vous été conduite à vous intéresser au mythe, non pas comme un simple sujet d'étude, mais pour y consacrer une grande partie de votre vie?
Tout simplement, j'ai suivi des études supérieures de lettres classiques. Ce n'est plus guère courant de nos jours. Enfin, j'espère qu'il y a encore des jeunes qui étudient le grec, le latin, l'ancien français. Donc, les humanités, comme on disait aussi. Et lorsqu'on étudie le latin ou le grec, et aussi l'ancien français, eh bien, on rencontre non seulement la philosophie antique. Donc, on rencontre Socrate, Platon, mais aussi Empédocle, et beaucoup d'autres, Épictète.
Et donc Ulysse et aussi, également, j'imagine.
Bien sûr, et on rencontre aussi les grands mythes fondateurs qui ne sont pas du passé, qui sont des récits intemporels. Et donc très tôt, enfin, j'étais encore bien jeune à la Sorbonne, et même avant, enfant, je lisais bien sûr l'Odyssée à la portée des enfants, des morceaux choisis, mais très tôt, eh bien, j'ai rencontré des personnages qui me paraissaient et qui me paraissent toujours extrêmement vivants. L'histoire, c'est la jeune Antigone, par exemple, bon, l'héroïne de Sophocle, qui est aux prises avec la justice des hommes. Et elle veut témoigner d'une autre justice qui est une justice aimante, ou une justice, elle parle des lois divines. Et moi, je me souviens cette fameuse phrase de Sophocle, j'en faisais ma devise à l'époque, lorsqu'Antigone dit je ne suis pas née pour partager la haine, mais pour partager l'amour. C'est magnifique. Bon, c'est il y a 25 siècles.
Hein. Oui, mais justement, Jacqueline Kellen, ces textes datent d'il y a 25 siècles. En quoi sont-ils encore parlants pour l'homme, la femme du 21e siècle?
Eh bien, justement, pour moi, le mythe n'est pas du tout... Donc, ces grands récits qu'on trouve à l'origine de toutes les civilisations, ce ne sont pas des textes sur lesquels on va se pencher comme universitaire ou érudit. Le héros du mythe, homme ou femme, le héros du mythe, c'est moi. C'est moi, c'est-à-dire chacun de nous, chaque être humain, en partance, en allant, en effet dans sa condition mortelle, mais tentant de trouver quelque chose qui ne périt pas. Alors, il n'y a pas de religion. À ce moment-là, il n'y a pas, par exemple, la religion chrétienne, bien sûr, du temps de Sophocle, ou pour Homère, encore moins. Mais il y a chez tous les héros du mythe, dans ces mythes de la quête, ce goût du dépassement, et puis c'est notre existence. Tous ces héros du mythe ne sont pas du tout immortels, mais ils rencontrent l'amitié, l'épreuve, l'injustice, la trahison, ils seront malades, ils vont vieillir, ils vont mourir.
Donc vous dites c'est nous, c'est-à-dire que nous sommes invités à une introspection à travers ces mythes et à une transformation à travers ces mythes.
Tout à fait. Le mythe est c'est vraiment un récit initiatique au sens initié, c'est se mettre en route, partir et quêter quelque chose qui nous dépasse, qui est plus haut que nous. Donc, on peut les prendre, on peut les interpréter de diverses façons, mais...
RCF. Thank you.
La lumière de la connaissance n'éteint pas la lumière de l'amour. C'est peut-être cette phrase du grand mystique persan Ghazali qui caractérise, je trouve, le mieux votre démarche, Jacqueline Kellen. Votre vie est rythmée par l'étude et par l'écriture. Vous avez publié près d'une trentaine d'ouvrages consacrés à l'exploration des mythes de la tradition occidentale et à l'approche de la vie intérieure, de la vie mystique. D'Ulysse au pré-chevalier de la Table Ronde, de Marie-Madeleine à la Béguine Edwige d'Anvers, vous nous introduisez dans une vraie quête qui a pour finalité la transformation intérieure du lecteur. Alors comment, Jacqueline Kellen, d'abord avez-vous été conduite à vous intéresser aux mythes, non pas comme un simple sujet d'étude, mais pour y consacrer une grande partie de votre vie ?
Tout simplement, j'ai suivi des études supérieures de lettres classiques. Ce n'est plus guère courant de nos jours. Enfin, j'espère qu'il y a encore des jeunes qui étudient le grec, le latin, l'ancien français. Donc, les humanités, comme on disait aussi. Et lorsqu'on étudie le latin ou le grec, et aussi l'ancien français, eh bien, on rencontre non seulement la philosophie antique. Donc, on rencontre Socrate, Platon, mais aussi Empédocle, et beaucoup d'autres, Épictète.
Et donc Ulysse et aussi, également, j'imagine.
Bien sûr, et on rencontre aussi les grands mythes fondateurs qui ne sont pas du passé, qui sont des récits intemporels. Et donc très tôt, enfin, j'étais encore bien jeune à la Sorbonne, et même avant, enfant, je lisais bien sûr l'Odyssée à la portée des enfants, des morceaux choisis, mais très tôt, eh bien, j'ai rencontré des personnages qui me paraissent et qui me paraissent toujours extrêmement vivants. L'histoire, c'est la jeune Antigone, par exemple, bon, l'héroïne de Sophocle, qui est aux prises avec la justice des hommes. Et elle veut témoigner d'une autre justice qui est une justice aimante, ou une justice, elle parle des lois divines. Et moi, je me souviens cette fameuse phrase de Sophocle, j'en faisais ma devise à l'époque, lorsqu'Antigone dit je ne suis pas née pour partager la haine, mais pour partager l'amour. C'est magnifique. Bon, c'est il y a 25 siècles. Hein.
Oui, mais justement, Jacqueline Kellen, ces textes datent d'il y a 25 siècles. En quoi sont-ils encore parlants pour l'homme, la femme du 21e siècle ?
Eh bien, justement, pour moi, le mythe n'est pas du tout... Donc, ces grands récits qu'on trouve à l'origine de toutes les civilisations, ce ne sont pas des textes sur lesquels on va se pencher comme universitaire ou érudit. Le héros du mythe, homme ou femme, le héros du mythe, c'est moi. C'est moi, c'est-à-dire chacun de nous, chaque être humain, en partance, en allant, en effet dans sa condition mortelle, mais tentant de trouver quelque chose qui ne périt pas. Alors, il n'y a pas de religion. À ce moment-là, il n'y a pas, par exemple, la religion chrétienne, bien sûr, du temps de Sophocle, ou pour Homère, encore moins. Mais il y a chez tous les héros du mythe, dans ces mythes de la quête, ce goût du dépassement, et puis c'est notre existence. Tous ces héros du mythe ne sont pas du tout immortels, mais ils rencontrent l'amitié, l'épreuve, l'injustice, la trahison, ils seront malades, ils vont vieillir, ils vont mourir.
Donc vous dites c'est nous, c'est-à-dire que nous sommes invités à une introspection à travers ces mythes et à une transformation à travers ces mythes.
Tout à fait. Le mythe est c'est vraiment un récit initiatique au sens initié, c'est se mettre en route, partir et quêter quelque chose qui nous dépasse, qui est plus haut que nous. Donc, on peut les prendre, on peut les interpréter de diverses façons, mais pour la plupart et pour moi, ces mythes sont vraiment non pas des textes même, mais ce sont des êtres extrêmement vivants. Et peut-être il nous est demandé de les incarner à nouveau. Ce sont des thèmes extrêmement humains et encore une fois intemporels.
Alors Jacqueline Kellen, est-ce que ce sont les mythes qui vous ont conduit à une quête spirituelle? Parce que dans la trentaine d'ouvrages que vous avez écrits, on voit bien que la dimension spirituelle est très très importante. Vous n'avez pas été simplement une universitaire spécialiste des mythes. Vous vous êtes laissé transformer par ces mythes.
Oui, les mythes ne m'ont pas incité ou invité à la quête spirituelle, mais ils ont donné corps, certainement, donné corps, réalité. Ils ont donné les moyens d'action, de mettre en action par les vertus, par la confrontation à la réalité. Ils ont donné corps, en effet, à cette quête spirituelle. Mais autant que je me souvienne, alors est-ce que c'est une grâce ou un fardeau léger ? Autant que je me souvienne, je suis née, alors je ne peux pas dire avec la foi, parce que c'est un terme maintenant qui m'est un peu que je ne comprends guère, mais je suis née avec ce, autant que je me souvienne, je me suis née avec ce sentiment d'une présence mystérieuse, supérieure et irréfutable, et après qui s'est transformée aussi en expérience, mais ce sentiment d'une transcendance, c'est quelque chose qui était avec moi depuis toujours.
Depuis votre enfance et qui ne vous a jamais quitté.
Oui, et pourtant ce n'est pas, enfin bien sûr j'ai reçu une éducation catholique, donc qui a donné aussi, qui a nourri ce sentiment très fort. Mais donc il n'y a pas eu besoin de chercher au sens de chercher une forme.
Pas de démarche gnostique réservée aux seuls initiés.
Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais moi, ce qui m'a toujours, comme j'ai lu très tôt aussi, à 5 ans, je savais lire, et je dois presque tout au livre. Donc j'ai beaucoup étudié, et en particulier le christianisme, mais aussi toutes les autres mystiques. Et donc les mythes, pour revenir à ça, moi j'y ai vu une sagesse, en effet souvent pré-chrétienne, ou une sagesse qui ne se contredit pas du tout avec une démarche spirituelle liée par exemple au christianisme, parce qu'encore une fois il y a des points communs, non seulement l'exercice des vertus, non seulement le goût du dépassement, du perfectionnement, et puis cette recherche d'être, devenir immortel. Alors bien sûr le Christ n'y est pas, sauf si dans les romans courtois il y a, les chevaliers sont des chevaliers très chrétiens. Donc il y a vraiment, il n'y a pas de concurrence du tout, ni de rivalité, ni d'incompatibilité entre les deux.
Mais alors, quelle différence est-ce que l'on peut faire entre des récits mythiques et des récits plus courants, comme des romans aujourd'hui ? Quelle différence faire entre les deux ? Mes questions vous semblent très, très primaires, mais...
Non, mais je crains d'être très, très sévère. Moi, ce qui m'affole, enfin, je ne suis pas une grande lectrice de romans. Enfin, si, Don Quichotte ou des grands, grands romans, mais je ne suis pas du tout tournée vers le passé. Mais qu'est-ce qui me donne envie ? Moi, je me dis ça pour chacun de nous. Qu'est-ce qui me donne envie de m'aventurer, d'aimer, de créer, de devenir meilleur, de laisser, après mon passage, un peu plus de beauté, de bonté, de générosité, de justice. Enfin, pour moi, c'est ça, l'acte de création, c'est ça. Et que ce soit en musique, en peinture, un beau film, c'est ça. À la fois qui ne me fait pas rêver au sens me donner des illusions, mais qui me donne envie, en effet, d'être meilleur. Et de nos jours, ce que je peux voir, la littérature et malheureusement même beaucoup de femmes qui écrivent, c'est ce qu'ils appellent la vraie vie, moi ce qui me fait rire, donc c'est aux antipodes de Rimbaud qui parle de la vraie vie qui est ailleurs, et en effet la vraie vie, c'est la vie éternelle, ce n'est pas l'aspect existentiel des jours quotidiens. Et il y a une sorte de platitude, de réalité, et pire, depuis ces dernières années, je trouve qu'il y a une morbidité, une littérature de l'affreux, du souffreteux et du sinistre, dans laquelle on se complaît. Et apparemment, ça marche. Et on sait très bien, pour des raisons commerciales, hélas, et des raisons pas très nettes non plus, on sait très bien que ce qui marche, parlons en termes de marché, hélas, ce qui n'a rien à voir avec la création, la littérature et la spiritualité, ce qui marche, eh bien, c'est l'enfant martyr, c'est les atrocités.
Oui, mais dans les mythes, il y a beaucoup de violence aussi.
Oui, il y a une violence, mais on parle en termes d'épreuves. Ça, c'est une grande distinction. Bien sûr, il y a des combats, un Thésée qui va affronter le Minotaure, auteur, et puis avant il a affronté quelques monstres aussi, bien sûr, mais c'est non pas une complaisance dans la violence, c'est pour montrer la fermeté d'âme, la résistance, la vaillance, l'audace du héros. Il n'y a pas du tout un Héraclès ou Hercule qui accomplit ses 12 travaux, c'est vraiment notre image, c'est-à-dire nous avons en effet tout au long de l'existence des épreuves à traverser, mais l'intéressant n'est pas la souffrance, et surtout pas, il ne s'agit pas de stagner ou de se complaire dans la souffrance, ni en se plaignant, ni en faisant l'apologie de la souffrance ou de la violence. La question c'est comment je m'en sors, c'est-à-dire comment je m'en libère aussi, vers quel chemin d'allègement, de beauté ou de joie je vais. Donc, pour faire vraiment très rapide, je trouve que, bien sûr, il y a des exceptions heureuses actuellement, mais la plupart des romans, en effet, actuels, me paraissent dans une horizontalité sinistre, et une complaisance narcissique effarante, et ne donnent pas tellement envie de s'élever ou de devenir quelqu'un de bien.
Visage, RCF.
Jacqueline Kellen, une autre question liée au mythe et au texte spirituel et au grand texte religieux aujourd'hui. C'est un sujet qui divise hein, des biblistes et des théologiens. Est-ce que, par exemple, si on parle de la Genèse, on parle d'un récit mythique ou d'un récit spirituel religieux ? Je vous vois hausser les sourcils, c'est un sujet délicat,
oui,
complexe.
Mais c'est énorme. Et puis moi, je suis une grande lectrice et j'étudie énormément les textes, mais je ne suis ni théologienne ni exégète. Mmh. Pour prendre la Genèse, bien sûr, on ne peut pas, de nos jours, on sait bien, enfin, à moins d'être comme les créationnistes extrêmement un peu
fondamentalistes.
Hein, voilà, fondamentalistes. Donc là, c'est assez naïf de penser, bien sûr, ce n'est pas Dieu le Créateur qui a soufflé dans les bronches d'Adam après avoir modelé comme un potier, bien sûr. Donc ça, ce sont des images. Il n'empêche que il y a ce sens plus ou moins caché ou qui se dit à travers des images qui passe. Moi, ce qui m'est très cher aussi dans tout, et c'est pourquoi Jésus aussi a tellement parlé en parabole, et on lui posait la question, l'image s'adresse au cœur. L'image s'adresse au cœur. Ce qui est troublant aussi, ce que je note très souvent dans le langage actuel, et pas simplement chez les politiques, c'est qu'il y a une abstraction insensée. Alors ne serait-ce, je prends un exemple très très courant, on ne parlera plus des beautés ou des richesses de la nature, parce qu'apparemment c'est trop romantique ou sentimental, mais on ne va parler que de biodiversité. Bon, moi la biodiversité, sur un plan, j'allais dire, pour un être sensible, ça ne dit rien. La beauté de la nature, oui, ça me donne envie de contempler, de veiller sur elle, etc.
Et donc du coup de réfléchir sur la beauté.
Voilà.
Et ça nous renvoie à plus grand.
Voilà, donc l'image, alors que ce soit le modelé d'argile, que ce soit le jardin d'Éden, plus tard les paraboles de Jésus et toutes les belles histoires qui sont contées, ne sont pas contées à des enfants naïfs, mais s'adressent toujours au cœur. Et le cœur à la fois est imaginatif et c'est les cœurs qui reçoivent cette parole-là. Ce n'est pas l'intellect. Ça ne veut pas dire qu'il faut être simple d'esprit. Mais il s'agit en effet d'entendre ces récits dans leur puissance originelle. Donc ça s'adresse vraiment au cœur.
Donc à l'intériorité.
À l'intériorité. Mmh. Oui, le cœur, quand on parle de cœur sur un plan spirituel, alors la plupart du temps, quand on parle de cœur, c'est sur le plan sentimental. Donc la Saint-Valentin, le cœur traversé d'une flèche, les petits cœurs que les enfants peuvent offrir aux parents ou à la maman. Bon, ça c'est le cœur affectif et sentimental qui est charmant, mais qui n'est pas le cœur spirituel. Le cœur spirituel, c'est le sanctuaire, c'est le lieu secret et sacré en chaque être, où la présence divine, où la transcendance peut se manifester. Donc c'est vraiment le sanctuaire, la lampe du cœur, la chambre secrète, tout ce qu'on prend aussi comme image.
Jacqueline Kellen, s'il est une femme qui est rentrée dans ce cœur, dans ce sanctuaire, c'est bien Marie-Madeleine. Et j'ai été impressionné en regardant votre œuvre, votre travail depuis des années, à quel point cette femme tient une place importante chez vous, Marie-Madeleine, plus que les autres.
Oui, j'ai l'impression, c'est vrai. Depuis que je l'ai rencontrée, je pense qu'elle m'a rencontrée. Mais non, elle ne me quitte plus. Elle ne me quitte plus et c'est pourquoi je ne pense pas à elle comme à quelqu'un d'extérieur ou à une sainte ou quelqu'un à qui m'adresser. C'est vraiment, alors à la fois, voici un personnage qui sans nul doute a existé, puisqu'on a l'air d'être tellement friand de savoir est-ce que Jésus a existé, est-ce que Marie-Madeleine a existé. existé. Donc cette fameuse réalité temporelle.
Et historique.
Historique. La question, bien sûr qu'elle a existé, mais surtout ce personnage déborde infiniment, en effet, son passage sur Terre, est devenu une figure, certes, de légende, puisque toute sa légende a été propagée, enfin surtout en Provence, avec les Saintes Marie de la Mer et puis la Sainte Baume, etc. Puis la découverte des reliques ici et là, à la Sainte Baume et à Vézelay au XIe, XIIe siècle.
Donc, avec une redécouverte au Moyen-Âge de Marie-Madeleine et de sa spiritualité.
Pour son culte, certes, mais c'est une femme qui ne parle quasiment pas dans les évangiles, mais en revanche, que de manifestations d'amour et d'amour éperdu. Et donc, elle est devenue une figure, la figure même de l'âme amoureuse, de celle qui s'attache à Jésus pour toujours. Et comment l'ai-je rencontrée ou comment m'a-t-elle rencontrée? Très tôt, puisque, donc, ayant été élevée chez les religieuses, donc elle ne me parlait pas de Marie-Madeleine, mais je lisais les textes et puis nécessairement, on parle de Marie-Madeleine à des moments privilégiés de la vie de Jésus, et en particulier, enfin le summum étant le jour de Pâques, donc la première personne qui voit le Christ ressuscité, c'est elle, donc ce n'est quand même pas rien, c'est sur elle que repose en premier ce témoignage fondamental
dans l'évangile de Saint Jean, voilà. Jésus se manifeste
c'est elle, en premier, et elle court pour le dire aux disciples, entre parenthèses, qui la plupart soit l'ont trahi, soit ont renoncé à y croire et sont retournés à leurs petites occupations, après avoir dormi sur le mont des Oliviers. Bon, enfin ça c'est toutes les horreurs.
Ça veut dire qu'on a du mal à croire les femmes, quelque part, oui, j'entends ça dans
oui,
votre propos.
Oui, et donc Marie-Madeleine court pour dire à Pierre, André, etc., qu'elle a vu Jésus vivant, et il ne la croit pas. Il pense qu'elle déraisonne parce qu'elle a toujours été un peu excessive. Donc ça c'est violent. Bien sûr, je connaissais ces récits, et en même temps, dans la tradition catholique, il y avait toujours ce qualificatif accolé à Marie-Madeleine, la pécheresse. Alors, petite fille, on ne me disait pas la prostituée, etc. Mais enfin, c'était la pécheresse, la femme de mauvaise vie, etc. Et je trouvais ça étonnant parce que, par ailleurs, lisant beaucoup de poésie et puis aimant aussi beaucoup la peinture, je voyais chez les poètes ou dans les tableaux qui la représentaient, même si elle était au pied du Christ, je voyais une femme splendide. Et je me disais, là, il y a quand même une incompatibilité, il y a quelque chose qui est contradictoire.
Autre image de cette femme qui déverse un parfum de très grand prix sur les pieds de Jésus, voilà. Donc une femme riche.
Mais une femme riche, une femme belle, et il faut dire le terme, une femme libre. Une femme libre, c'est ça, je pense, qui... elle demeure, je pense, la grande, alors sans du tout entrer dans les fantasmes et délires de ces dernières années, surtout tous les récits autour de Marie-Madeleine. C'est la liberté d'allure de cette femme, cette liberté qui l'a fait tout quitter pour suivre Jésus jusqu'au bout, et jusqu'à la crucifixion au Golgotha, et jusqu'à la résurrection, puisqu'apparemment elle est la seule à le prendre au sérieux, à croire en ses propos, puisque le troisième jour, elle est seule à y aller, bon, à sa rencontre. Donc, cette femme est vraiment cette figure. Alors, pour moi, c'est la première mystique. C'est la première mystique, si on entend par mystique, un être qui désire de tout son être, de tout son cœur, de toute son âme, s'unir à la divinité, s'approcher de la divinité. Donc c'est vraiment la première mystique avant d'être, si on suit la légende provençale où elle s'est retirée, pour vivre en pénitence ou en solitude dans le massif ou la grotte de la Sainte-Baume, c'est aussi la première ermite, la première ascète. Donc c'est vraiment une femme totale.
Mais tout ce qui l'a guidée, c'est cet amour infini pour le Christ.
Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'il y a un élan irréversible, et il me semble que chaque femme, au moins, ressent en elle cet amour qui vous fait tout quitter. Qui vous fait tout quitter et tout traverser aussi. Et c'est un amour qui procure la liberté.
Alors qu'est-ce qui contient cet amour? Parce que l'amour, c'est un mot aujourd'hui galvaudé. Vous, oui. On voit que ce que vous appelez la voie amoureuse, la voie VOIE, c'est vraiment une constante aussi dans toute votre œuvre.
J'espère bien.
Vous avez déclaré un jour, pour ma part, je vais au combat sans relâche pour sauver la beauté et le mystère de l'amour. C'est ma tâche de guerrière spirituelle qui consiste à répandre de l'amour en un monde qui le profane et le crucifie. Vous avez déclaré ça un jour dans une interview.
Bon, ben je... Oui,
vous
oui,
re-signez,
je...
là, vous redites
tout à
la
fait,
même chose.
Tout à fait, je reconnais mes propos, je ne me souvenais pas de ça, mais bien sûr, je signe. Oui, oui, reconnaître l'amour en toute chose, mais c'est une qualité d'amour qui n'est pas mièvre ni sentimentale. C'est un amour d'ordre à la fois du désir, du haut désir, et ce terme qui est tellement mal compris ou galvaudé. Le désir n'est pas la convoitise, le désir est une force essentielle, une énergie vitale. C'est ce qui me fait sortir de moi, ce qui me fait m'aventurer, risquer, conquérir, mais conquérir pas au sens de posséder. Et le désir de ciel, le désir céleste est essentiel dans une quête spirituelle.
Alors pour revenir à cette question,
il y a
sur l'amour,
le désir,
voilà,
non, mais il y a le désir, et puis dans cette voie amoureuse, il y a le désir, une ardeur, et il y a une passion. C'est unique, c'est une passion exclusive. La voie amoureuse, qui me paraît le propre de la voie féminine, ce n'est pas de la dévotion, ce n'est pas simplement